Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai l'impression que la chair diminue et donc j'ai beaucoup moins de place maintenant pour poser mes feuilles, mais c'est pas grave parce que maintenant il y a un écran. Donc merci en tout cas pour les techniciens qui ont installé tout ça. Nous voilà dans les mois d'été, les mois où l'activité est normalement moins frénétique que le reste de l'année. Certains d'entre nous prévoient de partir en vacances, d'autres vont rester et c'est très bien aussi. Les jeunes sont en vacances, il me semble, et les enfants le seront bientôt. L'été est peut-être aussi le moment propice pour réfléchir sur la vie, avant la reprise trépidante du mois de septembre. Et c'est pourquoi j'ai choisi pour cet été, dans la Bible, un des livres de sagesse, l'Ecclésiaste. Alors, juste à main levée, combien d'entre vous l'ont déjà lu? Deuxième question, combien ont trouvé que c'était déprimant? Ah, moins de personnes. Donc les autres, ça va, ça ne vous a pas trop déprimé. Effectivement, souvent, c'est la réputation qu'à ce livre. Et pourtant, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu a placé ce livre dans sa parole pour nous déprimer? Est-ce que c'était son intention? Quel était en fait le message que l'auteur voulait adresser à ses contemporains? Et c'est sûr que j'ai une dette énorme envers mon ancien professeur Sylvain Romerowski, dont j'ai suivi le cours sur l'Ecclésiaste, en plus de me servir de son commentaire. Et donc, tout ce que je vais pouvoir dire, notamment aujourd'hui et même par la suite, eh bien, je le lui dois. C'est entre autres par aussi son cours que j'ai pu comprendre un peu mieux ce livre. D'ailleurs, le titre de son commentaire, c'est « Pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est ». Et je crois que ça résume l'intention de l'auteur de l'Ecclésiaste. L'auteur veut apprendre au lecteur à vivre la vie telle qu'elle est. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que la vie telle qu'elle est, la vie ici-bas, n'est pas toujours simple. Il y a des hauts et des bas, il y a des incertitudes. Nous commençons une entreprise, un projet, et nous ne savons pas comment cela va finir. Dieu œuvre dans cette vie, mais qui peut cerner tout ce que Dieu fait? Il y a bien des questions qui restent sans réponse. Et ce constat, eh bien, nous le retrouvons dans le livre de l'Ecclésiaste. Et voici une proposition que fait Sylvain Romerowski concernant la structure de ce livre. Et je vous la montre. Vous apprécierez le fait que les sections se répondent de part et d'autre du livre. Et pour schématiser, nous avons une première partie qui décrit la condition humaine, ce qu'est la condition humaine telle qu'elle est. Et puis une seconde partie où l'Ecclésiaste va donner des conseils pour vivre cette condition, pour assumer cette condition, pour vivre la vie telle qu'elle est. Donc d'un côté, une description de cette condition humaine et de l'autre, des conseils. Comment vivre cette vie? Comment accepter de vivre cette vie, cette condition humaine telle qu'elle est? Et pour ce qui concerne cet été, eh bien, nous allons nous concentrer sur la première partie et il faudra attendre l'été d'après, si Dieu le veut, pour évoquer la suite. Ça vous va comme programme? Oui, de toute façon, on est déjà lancé. Alors, à présent, je vous propose qu'on puisse lire ensemble le premier chapitre de l'Ecclésiaste, les versets 1 à 11. Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Voici ce que dit le maître, fils de David, roi à Jérusalem. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver à l'endroit où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne et tourne encore, ainsi va le vent. Et il reprend les mêmes tours, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail. Plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit « Tenez, voilà quelque chose de nouveau !» En fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. On a souvent dit que l'auteur de l'Ecclésiaste était Salomon. Et c'est vrai que lorsqu'on voit le premier verset, eh bien, c'est un indice qui semble aller dans ce sens-là. Mais d'autres, comme Sylvain Romerowski, pensent qu'un autre en est l'auteur. Un auteur qui nous est inconnu. Un auteur qui nous rapporte en fait ce que dit celui qui est appelé ici le maître. Ou celui qui est appelé l'Ecclésiaste. Ou celui qui est appelé en hébreu le Cohélète. Et j'aime bien cette consonance, le Cohélète. Alors, c'est vrai, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire Cohélète. On ne sait pas à quelle fonction ça renvoie exactement. Est-ce qu'il s'agissait d'une personne qui convoquait l'Assemblée, qui avait une certaine autorité sur l'Assemblée? Est-ce que c'était un prédicateur? Ou bien une personne qui enseignait le peuple? On ne sait pas exactement, on hésite un peu. Il semble que le Cohélète, en tout cas, soit présenté comme un maître et un maître de sagesse. L'auteur rapporte donc dans son livre les paroles du Cohélète qui nous fait penser à Salomon ou à quelqu'un qui lui ressemble. Et je ne vais pas aller plus loin pour chercher à savoir qui est ce Cohélète. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans une prochaine prédication. Je vous propose plutôt qu'on puisse se concentrer maintenant sur ce que dit le maître. Et je relis le verset 2. « Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. » Vous connaissez peut-être la version plus littérale, « Vanité des vanités complétée ». Tout est vanité. Voilà la première pensée de ce livre, le premier constat, les premiers mots qui décrivent la réalité telle qu'elle est. Et qui pourrait le nier ? Qu'il y a effectivement quelque chose de dérisoire dans la vie. Qu'il y a de la vanité. Tout est dérisoire. Tout est hebel en hébreu. La réalité telle que nous connaissons a quelque chose de hebel. De futile. De décevant. De fragile. De frustrant. De misérable. Autant d'adjectifs pour qualifier ce qui cloche dans cette vie. Et combien de fois avons-nous fait quelque chose dans notre vie pour nous dire ensuite « Mais en fait, à quoi ça sert ? Je perds mon temps. Pourquoi je fais ça ?» Combien de fois dans notre vie on a pu se poser ce genre de questions ? On rejoint parfaitement l'analyse ici du Cohélète. Tout est dérisoire. Pensez par exemple au nombre d'heures que nous passons à attendre. Lorsque nous attendons notre train ou notre avion. Lorsque nous attendons en faisant la queue devant une caisse au supermarché. Ou lorsque nous allons à la préfecture. Lorsque nous attendons dans les bouchons. Alors, notamment Mike qui peut en témoigner ce matin. N'est-ce pas dérisoire de passer autant d'heures à attendre dans une vie ? Il y a constamment dans cette vie ici-bas quelque chose qui nous frustre. Tout ne se déroule pas comme nous l'avions prévu. Beaucoup de choses nous semblent futiles, inutiles. Et nous ne trouvons pas toujours du sens dans ce que nous faisons. Lorsque je travaillais en tant qu'enseignant dans le secondaire, nous parlions des élèves qui ne trouvaient pas de sens à l'école. Qui ne trouvaient pas de sens dans ce qu'ils apprenaient. Après tout, à quoi cela va-t-il servir dans la vie de connaître la différence entre le COD et le COI ? Alors moi, je pourrais vous donner une raison, mais je pense que beaucoup d'élèves se posent la question. À quoi cela sert? À ce stade de son discours, le Qohélète pose d'emblée ce constat que tout est dérisoire. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a que de la frustration dans la vie. Mais de manière générale, lorsqu'on pense à la condition humaine, elle nous paraît tellement misérable. Et aucun domaine de la vie n'est épargné par ce côté dérisoire. Tous les domaines sont touchés par ce côté dérisoire. Et dans la suite du livre, eh bien, je mentionnerai cet exemple. Ecclésiaste chapitre 4, verset 8. Voilà un homme seul, c'est un exemple, qui n'a personne avec lui, ni fils ni frère. Et pourtant, il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses, dit-il, se dit-il. Cela aussi est dérisoire. C'est une bien mauvaise affaire. Voilà quelqu'un qui travaille très dur, mais qui n'a personne après lui à qui finalement confier ses richesses. Et finalement, à quoi bon travailler aussi dur? Le Qohélète peut affirmer que tout est dérisoire, car il a observé ce genre de situation. Il a observé que des personnes se comportaient de cette manière-là. Et si la vie semble si dérisoire par bien des aspects, il faut que nous puissions en nommer la cause. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi avons-nous le sentiment que la vie n'est pas ce qu'elle devrait être? Eh bien parce que nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde qui est corrompu, marqué par le péché. Parce que les hommes sont pécheurs, portés au mal. Parce qu'à l'origine, l'homme a désobéi à Dieu. Il a chuté et qu'ainsi, eh bien, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et nous nous accordons tous à faire ce constat avec le Qohélète. Dans un monde déformé par le péché, tout est dérisoire. Et là où certains considèrent le maître comme un pessimiste, il nous faut plutôt considérer que le maître voit la vie d'un point de vue réaliste. C'est la vie telle qu'elle est, y compris pour le chrétien. Et nous croyons que celui qui s'exprime ainsi connaît Dieu aussi. Celui qui est en train de nous dire cela, il a aussi foi en Dieu. Mais il fait ce constat, tout est dérisoire. Dans un autre contexte, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome « En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » La création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Selon une décision qui appartient à Dieu seul, eh bien la création est encore à l'heure actuelle réduite à une condition bien dérisoire. Et jusqu'à preuve du contraire, nous faisons partie de cette création et nous vivons cette même condition. Bien sûr, dans ce texte de la lettre aux Romains, Paul ne s'arrête pas à ce constat. Et il dit ensuite, toujours au verset 20, « Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Cette condition, avec ce qu'elle a de frustrant, ne restera pas toujours ainsi. Un jour, Dieu se chargera de nous accorder une condition nouvelle, débarrassée du péché. Une condition incomparable par rapport à tout ce que nous pouvons connaître ici-bas. Mais pour le moment, eh bien, nous vivons dans ce monde où le caractère dérisoire, misérable, n'a pas disparu. Et je crois que nous ne devons pas tomber dans l'illusion comme si nous pouvions échapper à cette condition. Ou comme si les chrétiens étaient au-dessus du lot, au-dessus de ce que vit le commun des mortels. Nous vivons aussi cette même condition, au même titre que tous les hommes. Et en ce qui concerne la condition humaine, eh bien, pour le dire encore autrement, nous sommes tous logés à la même enseigne. Si le Qohélète a commencé par dire que tout est dérisoire, il poursuit pour démontrer que rien n'est nouveau. Si aujourd'hui nous pouvons lire ce texte et acquiescer de la tête, cela montre bien que vraiment rien n'a changé depuis l'époque du Qohélète. Jusqu'à aujourd'hui, on fait le même constat, on est d'accord avec lui. Et avant de dire cela, eh bien le Qohélète pose une question au verset 3. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime, il peine sous le soleil? Je vous laisse un peu réfléchir à cette question. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? Alors ça ressemble à une question de philosophie, mais je crois que c'est une vraie question, que peut-être on s'est déjà posée d'ailleurs. À quoi bon se donner tant de peine dans le travail que je fais? Et il n'est pas certain que la réponse soit « rien, il n'y a aucun avantage ». Je pense qu'il s'agit d'une vraie question ici. Et après avoir dit que tout est dérisoire, il est logique de se demander si l'homme a quand même un avantage à se donner tant de peine dans son travail. Et il faut attendre la suite de notre texte pour voir comment le Qohélète répond à sa propre question. Et à cet endroit, nous percevons aussi une allusion aux conséquences de la chute. Et je vous propose que nous puissions relire au tout début de la Bible ce qui a été dit finalement à Adam, en particulier après son péché, après sa désobéissance. Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des charrons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce que Dieu a dit ici, c'est réalisé. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, le travail peut être pénible d'une manière ou d'une autre. Dans certains métiers, plus que d'autres, il faut suer pour obtenir un résultat. Eh bien, c'est conforme à ce que Dieu dit ici. Dans les récentes discussions qui tournaient autour de la réforme des retraites, le thème de la pénibilité du travail a été mis en avant. Parce qu'il est plus qu'évident que tel travail est plus pénible qu'un autre, dans ses conditions, dans son environnement bruyant ou nocif, dans ses horaires, dans ce qu'il y a de répétitif. Oui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a bien des aspects qui nous font penser que le travail est bien pénible. Et le Qohélète parle du labeur de l'homme en tenant compte justement de la condition humaine telle qu'elle est depuis la chute. Il y a des ronces, il y a des épines. Et dans une certaine mesure aussi, ceux qui sont encore dans les études, comme nos jeunes ou les étudiants de l'IBN, eh bien, ils ne sont pas épargnés par cette pénibilité. Parfois aussi, dans les études, on le ressent. C'est tout à fait normal, en quelque sorte, en tout cas, par rapport à ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Alors, le maître demande, quel avantage pour l'homme de se donner autant de peine? Et encore une fois, c'est peut-être une question que vous vous posez. Quel avantage de me donner tant de peine dans mon travail? Le Qohélète n'y répond pas tout de suite, mais regardons ce qu'il veut enseigner. À partir du verset 4. Qu'est-ce que vous observez dans les versets que vous avez sous les yeux? Du verset 4 à 7. J'ai mis des couleurs. Ça doit peut-être vous amener un petit peu à réfléchir. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que le Qohélète essaye de faire passer comme message ici? Vous voyez des mots qui se répètent. Une génération s'en va, une génération vient, etc. Vous voyez des verbes de mouvement pour indiquer effectivement que les générations se succèdent. Ou pour indiquer que dans la nature, il y a des cycles et que les choses reviennent constamment. Le soleil se lève et se couche. Alors bien sûr, ça c'est notre perception depuis la Terre. Le soleil fait ça chaque jour, depuis la création du monde. Le vent va ici ou là, il tourne encore et encore. Quant aux fleuves, eh bien, nous retrouvons aussi quelque chose de répétitif. Leur parcours naturel est de se jeter à la mer, et cela depuis que le monde est monde. À partir de cette observation, qu'est-ce que l'auteur veut faire passer comme message ? Malgré le mouvement incessant que nous retrouvons dans ce monde, en fait, rien ne change. Il y a quelque chose de répétitif. Les cycles se répètent. C'est toujours la même chose. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est tout le temps la même chose. Évidemment, lorsqu'on réfléchit bien dans le détail, nous pouvons constater qu'il y a peut-être des différences. Le soleil ne se lève pas toute l'année à la même heure, par exemple. Ou le vent ne suit pas toujours un chemin qui est prévisible. Mais de manière générale, c'est toujours la même chose. Et quel contraste lorsqu'on regarde le verset 4. Le contraste entre d'un côté le côté éphémère des générations qui passent. Une génération vient, une autre s'en va, etc. Une génération qui est là juste pour un temps. Contraste entre ce côté éphémère et le côté permanent de la terre qui est toujours là depuis le commencement. Vous voyez le contraste ? Il y a les générations qui passent, mais la terre est toujours là, depuis le commencement. Et la suite va dans le même sens. Et je relis les versets qui suivent. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans le temps qui nous ont précédé depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Tout est en travail. Tout dans le sens que tout est en mouvement. L'homme continuera d'observer sans se lasser. Par exemple, le spectacle de la nature que Dieu a créé. L'œil n'est jamais rassasié de cela. Il y a toujours quelque chose à voir, même si au fond, c'est toujours la même chose. Alors ma femme me dit souvent que je ne suis pas assez sensible aux phénomènes naturels. C'est vrai, pour moi, un coucher de soleil est un coucher de soleil. Mais ma femme n'est pas rassasiée d'en voir un. C'est vrai que les couleurs sont différentes. Il y a quelque chose même qui nous paraît unique. Mais pour moi, un coucher de soleil est un coucher de soleil. Mais là où nous nous accordons un peu plus, c'est lorsque nous écoutons les chants des oiseaux, comme en ce moment. Nous avons beau écouter ce chant, parfois répétitif, notre oreille ne s'en lasse pas. Alors nous nous lassons peut-être plus volontiers des paroles qui sont répétitives. Il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à entendre, mais sans que cela ne change notre condition humaine. Ça ne change rien en fait. Et pour démontrer que tout est pareil dans la vie, quelle que soit l'époque, eh bien le Qohélète affirme ici, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il va même plus loin en démontrant, en cherchant à démonter l'illusion de la nouveauté. Pour telle génération, il semble qu'un recommencement est possible, que le monde pourra changer avec elle. Mais en fait, c'était aussi l'impression de la génération précédente. Il y avait aussi l'impression qu'avec elle, le monde allait changer. Et ce sera aussi l'impression de la génération qui va suivre, qu'avec elle, le monde changera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque génération peut avoir le sentiment qu'elle est en train d'initier quelque chose de nouveau, qui va peut-être changer sa condition. Mais en fait, d'autres ont déjà essayé avant, et d'autres continueront d'essayer. La condition humaine reste sensiblement la même. Le Qohélète évoque l'oubli pour expliquer cette illusion. Pourquoi on a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de nouveau ? L'oubli. On croit que c'est nouveau, mais les générations passées ont déjà essayé. Nous constatons aussi, d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu l'histoire, nous constatons que l'homme a tendance à commettre les mêmes erreurs au cours de l'histoire. Il recommence les mêmes erreurs. Parce qu'au fond, même si des progrès ont lieu sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan politique, social, culturel, l'homme pécheur depuis Adam et Ève, reste pécheur. Et sa condition conserve quelque chose de fragile et de misérable. Et par tout ça, qu'est-ce que le Qohélète veut nous dire ? En évoquant tout cela, le fait que les choses ne semblent pas changer, que les cycles sont répétitifs, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire ici ? Dans son commentaire, Sylvain Romerowski intitule cette partie que nous venons de voir « On n'échappe pas à la condition humaine ». Et c'est ce que nous allons voir dans un dernier temps. Nous n'échappons pas à notre condition, quoi qu'on puisse essayer. Mais, j'ai mis un mais, et vous allez comprendre pourquoi. Je reviens donc sur ce qui peut être d'ailleurs l'illusion de notre époque, à savoir qu'avec le progrès, avec les découvertes que nous faisons, nous parviendrons à sortir de la condition pénible, misérable, frustrante où nous sommes en tant qu'êtres humains. Il me semble que penser cela est une illusion et dérisoire. Aucune avancée ne peut sensiblement transformer la condition de l'être humain dans ce monde déchu. Et cela semble une mauvaise nouvelle. Pourtant, c'est la réalité telle que le Qohélète nous la décrit. Certes, nos conditions de vie peuvent s'améliorer. Nous pouvons expérimenter un certain confort. Mais je pense que vous l'avez aussi vécu, vous vous rendez compte que ce confort est rapidement fragilisé par les crises successives que nous avons connues ces dernières années. Crise sanitaire, crise économique, crise énergétique, crise sociale. Oui, nos conditions de vie peuvent s'améliorer, mais il y a toujours une fragilité qui fait que ça ne dure pas. Prenons un autre exemple en parlant du smartphone. À bien des égards, cet objet qui est devenu l'extension de notre bras a révolutionné notre quotidien. Dans un certain sens, peut-être en mieux. Nous avons tout à portée de main jusqu'à pouvoir payer nos courses avec notre téléphone. Mais très rapidement, et vous le savez, cette avancée technologique a fini par nous causer bien du tort. Plus que jamais, nous passons plus de temps sur les écrans. Cela est devenu indispensable pour communiquer entre nous à distance. Plus que jamais, l'écran sert d'écran entre deux personnes qui sont peut-être assises face à face au restaurant, mais qui ne communiquent pas entre elles. Et je ne parle même pas de l'addiction que cela a pu engendrer désormais dès le plus jeune âge. Pourtant, on dit progrès, avancée technologique. Mais vous voyez aussi tous les inconvénients qui vont avec. Le progrès ne change pas considérablement notre condition humaine. Et c'est un exemple parmi d'autres qui dévoile justement qu'il y a une illusion ici, de penser que par toutes ces découvertes, on peut vraiment changer quelque chose dans notre condition. Malgré tous les progrès apparents, l'homme ne peut rien apporter de neuf à sa condition. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Les générations passées ont déjà essayé. Je prends un autre exemple avec l'invention des moyens de transport. Nous avons cru qu'avec cela, c'était un gain de temps. Et c'est vrai, si on fait Paris-Marseille aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 3 heures en TGV. C'est ça, hein ? Mike, tu confirmes ? Et d'autres. C'est rapide. En 3 heures, on arrive dans le sud de la France. Sauf quand il faut attendre. Sauf quand le train est annulé. Sauf quand la pénibilité du travail refait surface et que les agents décident de faire la grève. Là, du coup, eh bien, d'avoir inventé un moyen rapide, ça ne nous sert plus à grand-chose. C'est hebel, c'est dérisoire. Comme le Qohélète, frères et sœurs, soyons réalistes. Soyons réalistes sans noircir davantage le tableau, mais soyons quand même réalistes. Voyons la réalité telle qu'elle est. Et je cite encore Sylvain Romerowski, voilà, je vais le citer encore à de nombreuses reprises, mais là, lorsqu'il écrit dans son commentaire, « Les progrès des sciences et des techniques, les avancées sociales, politiques ou autres, ne produiront pas le royaume de Dieu. et ne nous permettront pas d'échapper à notre piètre condition. Ils font simplement partie des petites bonnes choses que Dieu nous donne en ce monde. Et il faut donc les recevoir comme telles, ni plus ni moins. Ce sont des petites bonnes choses que Dieu nous accorde, mais elles ne sont pas là pour améliorer ou pour changer notre condition. Oui, soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne et tout ce que Dieu nous donne de pouvoir découvrir. Mais reconnaissons aussi que malgré ces progrès, nous n'échappons pas à notre condition. La solution ne peut venir de l'homme. L'espoir ne peut venir de l'homme. Et pour citer de nouveau mon collègue, le neuf ne peut venir que d'ailleurs, d'un autre, extérieur au monde, autrement dit, de Dieu. Le neuf ne peut que venir de Dieu. Voilà notre lueur d'espoir. Vous avez remarqué que dans notre texte, Dieu n'est pas mentionné. Et cela peut donner l'impression qu'il est absent. Mais en fait, si nous vivons sous le soleil, il y a bien quelqu'un qui échappe à cette condition dérisoire. C'est notre Créateur, c'est Dieu. C'est lui qui peut apporter quelque chose de nouveau, de l'extérieur de notre monde. Et écoutez ce que Dieu dit à son sujet, à travers ces différents textes. Ésaïe 42, verset 9. « Les événements du passé se sont produits, et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. » Ésaïe 65, versets 16 à 17. « En effet, les maux du passé seront tous oubliés. Ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. » Et puis Jérémie 31, verset 22, juste une partie de ce verset. « L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. » Le Qohélète dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Mais il n'est pas en train d'exclure Dieu en disant cela. Parce que Dieu, lui, peut apporter du nouveau. C'est lui le Créateur. De la part de l'homme, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. On peut tout essayer, ça ne va pas améliorer notre condition humaine. Seul Dieu peut apporter la nouveauté. Seul Dieu peut apporter une nouvelle création. Seul Dieu peut nous donner l'espérance, comme nous l'avons lu au début, qu'il mettra un terme à cette condition frustrante de la vie. La nouveauté à laquelle nous aspirons tant ne peut venir que de Dieu. Et si nous avons une telle espérance, c'est parce que dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui a vécu dans cette même condition dérisoire et frustrante. Le monde, au moment où Jésus est venu, n'avait toujours pas changé. Et pourtant, c'est grâce à Jésus que nous connaissons quelque chose de nouveau. Lui qui a payé sur la croix pour nos fautes et qui est ressuscité, lui qui a réglé le problème fondamental de l'homme qui est le péché et qui rend tout cela dérisoire, il nous conduit dans une vie nouvelle. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il nous fait entrer dans une nouvelle alliance en étant réconciliés avec Dieu qui nous a pardonnés. Voyez la nouveauté que Dieu apporte. Et ça ne peut venir que de lui. Il fait en sorte que ce que nous faisons pour lui ne soit pas vain. Et hier, notamment, lors de la cérémonie de clôture de l'IBN, un verset nous a été rappelé à ce sujet. Et je le recite. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. « Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. » Dieu fait en sorte que ce que nous faisons pour lui n'est pas vain, n'est pas hevel. Tout ce que nous venons de dire n'annule pas ce que le Qohélète dit dans notre texte. Malgré la nouveauté apportée par Christ, nous sommes toujours dans ce monde marqué par le péché. Et la vie telle qu'elle est continue d'avoir quelque chose de dérisoire. Seulement, de là où nous sommes, nous attendons que Dieu transforme tout absolument. Et il le fera quand Jésus-Christ reviendra. L'enseignement du Kohelet, contrairement peut-être au discours que nous entendons aujourd'hui, ne nous berce pas d'illusions. Le monde ne va pas sensiblement changer. Notre condition humaine garde encore son côté Hevel, dérisoire, misérable, même après la venue de Jésus. La création demeure soumise à la vanité et elle attend sa délivrance. Et l'intention du Kohelet est que nous puissions accepter cette réalité. La suite de l'Ecclésiaste et le reste de la Bible, de la parole de Dieu, nous permet de ne pas nous apitoyer sur cette condition dérisoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et seul Dieu peut apporter du neuf. Et il a déjà commencé à le faire. Il a déjà commencé sa nouvelle création. Et si nous avons placé notre foi en Christ, nous en vivons les prémices. Et nous pouvons avoir confiance en celui qui règne et qui déclare « Voici, je renouvelle toutes choses. » C'est Dieu qui peut apporter de la nouveauté. Et il renouvellera toutes choses. Et alors que nous entamons une autre semaine, avec tout ce qu'il y aura de dérisoire et de frustrant, soyons aussi assurés que nous avançons un peu plus vers le jour où Dieu renouvellera toutes choses. Amen. Je vous invite à prendre un temps pour prier. Que par rapport à ce que Dieu vous a dit par sa parole, vous puissiez aussi lui répondre. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, encore une fois, pour toute la vérité qui est contenue dans ta parole. Parce que ce que tu nous dis à propos de la vie telle qu'elle est, correspond vraiment à la réalité que nous vivons. Et effectivement, il y a quelque chose de dérisoire, de fragile, de frustrant, de misérable dans notre existence. Nous nous en rendons compte, et malgré tous les progrès que tu as pu permettre, eh bien nous constatons que cette condition humaine reste sensiblement la même. Mais pourtant, à côté de cela, oui, tu nous ouvres aussi une porte pour espérer. Et déjà, nous avons de bonnes raisons de te remercier, parce que tu es venu jusqu'à nous, parce que tu as cherché à nous communiquer l'espoir et cette espérance que tu renouvelles toutes choses. Et merci parce que effectivement, en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Et même si notre condition reste ce qu'elle est, tu nous apprends à ne pas nous apitoyer sur notre sort. Et en même temps, tu nous apprends à ne pas nous bercer d'illusions en pensant que nous serions au-dessus d'une telle condition. Et merci parce que c'est auprès de toi que nous voulons rechercher ce qui est nouveau, ce que toi tu peux renouveler, ce que toi tu peux changer. Et merci encore pour cette espérance aussi que tu nous donnes. Qu'un jour, oui, tu renouvelleras toutes choses et que la condition humaine sera parfaitement comme on aspire tant à ce qu'elle soit. Et peut-être même, et sans doute, oui, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et en attendant ce jour, nous te prions simplement que tu nous accordes de pouvoir recevoir encore ces enseignements tirés de l'Ecclésiaste et que cela puisse nous amener à vivre toujours la vie telle qu'elle est, en sachant que tu es là. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.